Et donc nous lisons dans Matthieu 5, 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux.
Voilà, nous avons réentendu ce texte de Matthieu qui nous est suggéré pour aujourd'hui. Et en le relisant, nous nous souvenons que si cet enseignement, ce début d'enseignement, ces mots sur la montagne, est immobile, on les imagine peut-être assis quelque part à l'écouter. La vie, elle, est celle qu'ils vont avoir tout de suite après cet enseignement, ne le sera plus immobile. Elle est faite de mouvements, de passages, de changements et d'ajustements permanents. Nous avançons nous-mêmes souvent entre ce qui se termine et ce qui se commence, toujours à finir puis recommencer quelque chose, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait aucune stabilité à repérer ici ou là, mais c'est le changement dans la continuité, c'est la belle formule qui va bien avec ce serment sur la montagne. La plupart du temps, nous trouvons les ressources nécessaires. Il suffit de discerner, de réfléchir, et nous pouvons continuer. Mais il arrive aussi de temps en temps que, dans certaines périodes, les besoins, les engagements soient peut-être plus difficiles à trouver, plus incertains, plus fragiles aussi, pour toutes sortes de raisons. À ce moment-là, les questions se font plus pressantes. Il faut trouver, il faut réagir, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est plus pressant, c'est plus inquiet. Et le besoin de solidité se fait aussi plus fort. C'est dans ces moments-là qu'il est naturel de chercher des points d'appui. Nous avons, nous, besoin de repères, de lieux où reprendre souffle et d'espaces où on se sent en sécurité ou actif ou efficace. Nous avons besoin d'être rassurés aussi par les résultats de ce que nous faisons. Ça vaut pour les disciples, ça vaut pour nous aujourd'hui, nous les disciples tardifs. On pourrait être tenté de faire de la foi d'ailleurs une sorte de refuge, un endroit où se protéger une fois qu'on est bien fatigué d'avoir fait ce qu'on a fait, au loin, et de trouver finalement ce lieu de ressourcement, se protéger du monde, de ses tensions, ou de ses contradictions. Seulement, Matthieu nous propose autre chose. Les paroles que nous entendons aujourd'hui sont tirées du sermon sur la montagne. Elles ouvrent un horizon différent. Elles nous disent « Vous êtes celle de la terre, lumière du monde ». Cet enseignement est inaugural. Jésus a commencé par ça, dans l'évangile de Matthieu. Il y a eu un enseignement, et puis ensuite seulement, les disciples sont partis faire ce qu'ils avaient à faire au nom de cette parole reçue. Et les lignes que nous venons de relire sont au début de cet enseignement. Comme préalable, avant même qu'on leur ait dit quoi que ce soit, on leur dit qui ils sont et ce qu'ils valent. C'est ça le début du sermon sur la montagne. Ce sont des mots très forts, hein. Ils sont surtout très positifs. Ils ne viennent pas alourdir nos épaules, ils ne viennent pas ajouter une exigence de plus à nos vies comme un préalable un peu lourd, en attendant ce qui va suivre. Ce n'est pas un poids supplémentaire, ils viennent nous rappeler ce que Dieu voit en nous et ce qu'il reconnaît déjà à l'œuvre avant que nous ayons commencé à agir, parfois même là où nous ne le voyons pas. Ces paroles sont adressées aux disciples au tout début du ministère de Jésus, avant même qu'ils aient accompli quoi que ce soit de remarquable. Ils n'ont encore rien fait. Ils ont suivi. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus ne leur dit pas ce qu'ils devraient devenir un jour non plus. À force d'efforts, de perfection, d'ascèse, d'exercice, etc. Il leur dit simplement, vous êtes, voilà ce que vous êtes. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Jésus ne nous parle pas aujourd'hui au futur, mais au présent encore, ne conditionne pas cette identité à notre comportement ou à l'efficacité de quoi que ce soit, à notre fidélité ou à nos performances. Il ne dit pas, vous serez le sel de la terre et la lumière du monde si vous réussissez, si vous êtes à la hauteur, si vous faites ce qu'il faut. Ce n'est pas une proclamation conditionnée à quoi que ce soit. Voilà ce que vous êtes. C'est simple. Il affirme une réalité présente, donnée et il faut l'espérer, reçu. On peut refuser un don aussi. C'est une parole qui est libératrice pour nous. Elle signifie que notre valeur, notre place, notre vocation ne dépendent pas de ce que nous produisons, et encore heureux, mais de la relation dans laquelle Dieu nous place dès le début, avant même qu'on ait bougé le petit doigt. Nous sommes déjà reconnus, appelés, envoyés. Le jugement n'est pas devant nous comme une espèce de menace. Il est derrière nous comme un seuil franchi, une porte refermée. C'est fait. Nous pouvons commencer à avancer sans crainte. Cette parole donne une identité nouvelle qui ne remplace pas celle que nous avons déjà, mais qui les traverse, les éclaire, leur donne un sens nouveau, les réinterprète, les relise. Nous sommes celles de la terre et lumière du monde, ensemble surtout, et pas individuellement, chacun de notre côté. Ce n'est pas une prouesse personnelle, mais nous le sommes comme un corps, comme une communauté, une église engagée dans le monde. Et c'est cette identité-là qui nous ouvre une vocation. Et donc, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, c'est un vous pluriel, ce n'est pas un vous de politesse. C'est toute cette équipe qui va partir ensemble ou par deux, qui est concernée par cette proclamation, parce que c'en est une. Sel de la terre et lumière du monde sont des images très simples, accessibles à tous, elles leur parlaient à l'époque, à nous aussi encore. Le sel donne du goût, il l'a servi pendant très longtemps à conserver, il a empêché ce qui est bon de se perdre. Ce n'est pas rien, le sel. Et c'est pour ça qu'on en a fait le symbole du respect de l'alliance entre Dieu et son peuple. On mettait un peu de sel au moment où on prêtait serment et puis on signait le document. C'est ce qui disait que les signataires s'engageaient ensemble. Dans la tradition biblique, le sel est bien sûr le signe d'une alliance qui dure, de ce qui est fiable. On parle du sel de l'alliance, de ce qui est solide. Et de ce qui ne se dissout pas avec le temps, même quand l'un des deux partenaires, la plupart du temps nous, lâchons l'affaire. Il y a toujours quelqu'un qui fait à nouveau alliance. Le sel dit cette permanence de la promesse. Puis la lumière, elle évoque beaucoup de choses, vous le savez. Une parole qui éclaire, pas une lumière éblouissante qui nous en met plein la vue, écrasante, mais une clarté suffisante pour avancer, pour voir où nous mettons un pied devant l'autre. Être lumière du monde, c'est accepter de vivre ses convictions et ce qu'elles nous poussent à faire, au grand jour, simplement, sans cacher ni imposer quoi que ce soit. C'est laisser transparaître, traverser des paroles, des gestes, une confiance qui ne vient pas de nous, mais qui nous traverse et qui donc est déjà dans le reçu, déjà donné à quelqu'un d'autre, déjà transmis. C'est là que cette parole nous rejoint aujourd'hui, dans l'engagement de notre association d'entraide. Être sel et lumière ne signifie pas sauver le monde. Ce n'est pas ce qu'on a demandé aux disciples. Là encore, encore heureux. Pas de résoudre toutes les détresses. Encore heureux. Ça signifie être présent là où la vie est fragile, autant que possible, là où la saveur semble être perdue, là où la vie de certains est devenue amère même en goût, peut-être même impossible à déglutir, tellement elle est infecte. Ça signifie croire que chaque geste compte, que chaque rencontre a un prix, que chaque accompagnement, même discret, participe à quelque chose de plus grand que nous. C'est cela que nous faisons. Et heureusement pour nous encore, nous n'avons pas à produire cette lumière. On peut se contenter de la réfléchir, dans tous les sens du terme. Elle nous est donnée, en tout cas, et nous avons seulement à ne pas la cacher. Nous n'avons pas inventé ou à réinventer au jour le jour l'espérance, elle nous est confiée, il faut la faire circuler. Ces paroles de Jésus rappellent une responsabilité, et c'est un mot que nous aimons beaucoup en protestantisme, la responsabilité. Et vous savez comment on réagit quand on accueille de nouvelles responsabilités alors qu'on en a déjà pas mal. En général, c'est plutôt ou avec un affaissement d'épaules. Et c'est normal. Nous nous en mettons beaucoup sur les épaules. Mais ici, c'est une responsabilité heureuse. Celle de la terre et lumière du monde signifie que notre présence a du sens, que notre engagement n'est pas inutile, que le monde n'est pas indifférent à ce que nous faisons, même lorsque les résultats sont modestes, même quand, même lorsque la fatigue se fait sentir, même lorsque nous doutons, même lorsque nous avons besoin de faire le point et de nous réorganiser. Le monde a sans doute besoin de signes et les nôtres sont discrets, mais espérons-le, ils sont et seront encore fidèles. Il a besoin de communautés qui osent la solidarité plutôt que l'indifférence, la confiance plutôt que la méfiance, l'ouverture plutôt que le repli, et c'est ce que nous essayons et essaierons encore de faire au nom de ces paroles. Besoin d'hommes, de femmes qui acceptent d'agir sans tout maîtriser, mais avec conviction et liberté. Dans notre assemblée générale qui va commencer, cette parole est un encouragement, ce n'est pas une responsabilité supplémentaire avec tout le poids qu'elle ferait peser sur nos épaules ou sur nos bras déjà bien chargés. Elle nous dit que ce que nous faisons est à une portée qui nous dépasse. Elle nous invite à continuer, à persévérer, à ajuster parfois, mais sans perdre courage. Elle nous appelle à ne pas agir seuls, ni pour nous-mêmes, mais au nom d'une alliance qui nous précède et qui est présente dans ce sel, une alliance qui nous précède et un royaume qui vient. Nous sommes quelque part entre les deux à faire ce que nous pouvons avec nos moyens. Vous voyez, dans ces quelques versets, nous avons reçu quelque chose que personne ne peut nous prendre, une identité. Nous sommes sel et lumière. Nous avons reçu une vocation et vivre cette foi dans le monde, concrètement, c'est cette vocation. La vocation, c'est aussi un mot bien connu chez nous, c'est la sensibilité à être appelé à faire quelque chose, à entendre une voix. Bien, nous avons reçu cette responsabilité qui est heureuse, répondre librement à cet appel. Il faut que cette parole nous encourage, résonne encore et encore chez nous, et nous relève, nous mette en route avec gratitude et avec confiance. Amen.